sur les reins des passantes et des passants l'hiver. Ainsi vont les si et les mais, pourtant ainsi va la vie comme un invité mystère.
Bonjour à tous, vous êtes sur Esprit Occitanie dans Ainsi va la vie, Irène Finkel au micro et Tiffaine Lemaine à la technique. J'avais reçu en mars 2020 Francis Rock qui était venu nous parler de son parcours de vie. Il nous avait parlé en fin d'émission de deux associations, Enfants du Monde et l'Association de Défense des Polyhandicapés à Dépôt. Ayant envie d'en savoir davantage, j'avais proposé à Francis de revenir nous en parler plus en détail. C'est donc aujourd'hui une émission Ainsi va la vie consacrée à ces deux associations que j'ai le plaisir de recevoir à nouveau, Monsieur Francis Rock. Bonjour Francis.
Bonjour Irène, bonjour Madame.
Un petit rappel, Francis, vous concernant. Vous êtes né à Tunis en 1938, vous êtes rentré en France en 1955, vous êtes marié, vous avez une enfant, Charlène, qui est polyhandicapée, nous en parlerons. Vous avez été journaliste sur la deuxième chaîne de télévision, vous avez été pigiste à Match, écho de la mode, moniteur du commerce international, également directeur d'un bureau d'études créant des établissements de santé en France, en Espagne, en Afrique et également à l'ouest de la Côte d'Ivoire, du Gabon. Il y a eu également, je crois, des projets au Togo, également au Nigeria. Oui. Vous avez fondé avec votre frère une entreprise de sécurité électronique. Vous êtes à la retraite depuis 1998 déjà. Et comme je l'ai dit en introduction, je vous reçois aujourd'hui pour nous parler des deux associations qui vous tiennent à cœur. L'association Enfants du Monde, d'utilité publique. Oui. Et l'Association de défense des polyhandicapés à Dépôt. Alors commençons tout de suite par la première, par l'association Enfants du Monde. Alors quand on va sur la page d'accueil de cette association, comme ça pour donner le ton, il nous est indiqué par le fondateur qui est Maurice Génoyer, Enfants du Monde est une association reconnue d'utilité publique en France depuis 40 ans. Notre ambition est d'apporter des réponses adaptées aux besoins des enfants les plus démunis au monde. Vaste sujet, vaste programme.
Très vaste et certainement disproportionné par rapport aux moyens que nous avons, mais l'essentiel n'est-il pas de commencer à mettre un pas devant l'autre pour avancer?
Ça c'est sûr, sinon on ne fait jamais rien, ça on est bien d'accord. Alors, j'aimerais qu'on reprenne au début justement, Francis, et que vous m'expliquiez déjà comment vous avez connu cette association, en quelle année, parce que bien évidemment ça correspond toujours à un parcours de vie, à un moment donné, on n'est pas sensibilisé par une association ou une autre par le hasard, hein. Ça tombe toujours à un moment donné de la vie. Alors donc on va reprendre cela, à quel moment vous avez rencontré cette association et pourquoi vous avez décidé de vous y investir?
Je vais vous répondre très simplement. J'avais un de mes amis qui était, un bon ami, qui était conseiller régional de la région PACA. Et un jour, il me dit, il partageait mes envies, mes espérances en un monde un peu meilleur. Et un jour, il me dit, j'ai parmi mes collègues, avec un très bon accent que je n'imiterai pas, un autre conseiller régional qui a créé une association qui s'appelle Enfants du Monde à Marseille. Et cette association fonctionne sur la base de comités régionaux qu'elle fédère et auxquels elle apporte sa qualification d'association d'utilité publique, parce que c'est un atout important.
Alors, pour ceux qui ne le savent pas, expliquez ce que veut dire le mot d'utilité publique dans une association.
Oui, les associations lambda, la plupart des associations sont dites d'intérêt général. C'est-à-dire qu'elles s'intéressent à celle dont je vous parlerai tout à l'heure, elles s'intéressent à un sujet, peut-être par rapport à une population ou un type de population. Donc ça peut avoir un aspect...
Plus niche.
Pardon ?
On est plus dans une niche.
Tout à fait. Même si la niche peut être grande.
Bien sûr.
En revanche, l'utilité publique, c'est d'abord parce que c'est reconnu par l'État, et ça l'est reconnu par un décret ministériel. Donc là, c'était à l'époque Charles Pasqua qui était ministre.
Alors cette époque, c'est quelle année?
Écoutez, c'est simple. On a fêté les 40 ans l'année dernière.
Donc 80.
Voilà. 80, oui.
80.
80, oui.
Oui, l'année dernière, donc 80.
Et voilà. Donc c'est quand même, pour une association, c'est une durée de vie qui prouve que ben, elle tient la route, elle est sur les bons rails et que ce qu'elle fait, ben, elle arrive à le perpétuer. C'est parce que ça devait avoir des résultats. Donc voilà pour l'utilité publique. Donc il me présente les choses de cette manière et moi j'étais, on reviendra avec la deuxième association, mais j'étais dans les tourments familiaux épouvantables avec l'arrivée de ma fille qui s'est avérée être polyhandicapée. Donc j'ai été un peu réservé, j'ai dit bon écoute tu sais bon, j'essaie de surnager. Il m'a dit, bon, c'est très bien. Mais enfin, tu sais, quand on demande, ça je m'en souviendrai toujours, quand on demande, il faut donner. Et ça a l'air choquant comme ça, mais c'est très profond, parce que ben, c'est ça la vie, hein, c'est un échange. Et j'ai réfléchi 2 minutes, pas plus, hein, je lui ai dit d'accord. C'est ainsi que nous avons créé, avec d'autres, hein, nombreux autres, le comité Côte d'Azur, de l'association Enfants du Monde, qui donc profitait de la qualification d'utilité publique. Je dis un des avantages, et c'est pas le moindre, c'est que ça permet une accession au marché de la générosité publique. Je m'excuse de dire marché, mais c'est un peu ça. Avec un atout que n'ont pas les autres. Quand on est d'intérêt général, ça peut être très bien, mais ça peut être assez quelconque. Et quelquefois, ça l'est quelconque parce que les gens ne peuvent pas faire autrement. Mais l'utilité publique, c'est contrôlé quand même. Hein. Et il y a des
comptes à rendre, forcément.
Des comptes à rendre, voilà.
Bien évidemment.
Donc ça profitait à tous les comités, dont le nôtre. Et bon, je m'excuse de parler de moi, là, mais je suis un peu locomotive. Mais je ne suis pas le seul, hein. Mais je suis locomotive et cette association, ce comité était une sorte d'association qui avait toute liberté dans la limite du respect des actions, enfin de la vocation d'Enfants du Monde de Marseille. Marseille, c'était national. Mais toute liberté, donc on pouvait créer des actions où on voulait. Ça avait une nécessité, c'était de les financer, hein, quand même. Donc, mais après, on devait rendre des comptes. Voilà, donc on a créé cette association et au hasard, alors on a fait des actions dans le département des Alpes-Maritimes où j'habitais à l'époque. Et puis un jour, hein, voilà, vous vouliez savoir les circonstances. Un jour, on a deux personnes de l'association, dont une était ma femme et l'autre ma belle-sœur, ont rencontré sur un boulevard à Nice un vieux monsieur africain avec son boubou qui circulait, qui avait besoin de renseignements, qui leur a demandé, elles ont commencé à parler, et puis elles sont aperçues que ce monsieur, il venait en France, et les Burkinabés, puisqu'il l'était, sont des gens assez exceptionnels, ils sont entreprenants. Et donc il venait en France pour tâcher de trouver des soutiens, des appuis, éventuellement des fonds pour l'intérêt de la population autour de lui, de sa ville. Sa ville s'appelait Ouaïgouya, et elle s'appelle toujours. Dans le nord-ouest du Burkina Faso, à 40 km du Mali. Je le dis parce que ça a une résonance aujourd'hui. Et bon, bah voilà, de fil en aiguille, on a parlé, on a vu qu'on pouvait faire quelque chose, et on s'est attelé à une tâche qui ne sera jamais finie, ça c'est évident, mais qui était immense, et qui l'est, et qui le reste, mais dans laquelle on a pris une part, je pense, positive, qui a apporté, allez, on va le dire, beaucoup aux populations qui l'ont reçue. Alors, ça, c'est le problème de l'action humanitaire. Lorsque vous faites avec un bon esprit et sérieusement une action, vous apportez du bien-être à une population qui, au regard de l'immensité des besoins de tout le reste de la population, c'est une goutte d'eau. Mais c'est la goutte d'eau du colibri et de la parabole du colibri, qui éteint l'incendie de la savane en allant au point d'eau prendre un peu d'eau dans son bec et aller la jeter. Chacun faisant ce qu'il peut avec ses propres moyens.
Bien sûr.
Voilà.
Et j'aimerais savoir, Enfants du Monde, il y a des antennes partout en France aujourd'hui ?
Alors non. C'est une histoire pas compliquée, mais j'essaie de vous résumer. Il y avait plusieurs comités. Il y en avait un à Toulouse, il y en avait un à Paris.
Dans toutes les grandes villes.
Voilà, il y en avait. Bon, ces comités étaient pas livrés à eux-mêmes au sens où ils étaient abandonnés, mais ils étaient livrés pour qu'ils s'expriment avec leur...
Ils étaient indépendants.
Avec une forte dépendance pour le siège de Marseille, mais indépendante de fer. Et puis, bon, certains ont été plus locomotifs que d'autres. Donc certains ont un peu lanterné. Bon, les choses étant pas toujours faciles. Le nôtre, en revanche, a été extrêmement dynamique. Je le dis pas pour nous jeter des fleurs, mais on a fait beaucoup de choses, et notamment en Afrique. On a lancé des actions au Burkina il y a 25 ans. C'est pas d'hier. Et on continue.
Enfants du Monde est présent dans tous les pays ?
Non. Alors, non.
Quand je dis Enfants du Monde est présent dans tous les pays, c'est est-ce que vos actions
non.
sont... Ou alors vous avez certains pays cibles ?
Alors, oui, ce sont des cibles, mais des cibles de circonstances. Mais enfin, oui, nous sommes présents. Alors, quand même, je dois vous dire quand même que... Enfants du Monde, l'association nationale fédératrice, était à Marseille, sous la houlette et la direction de Maurice Genoyer, qui était le créateur, mais un homme vraiment exceptionnel, qui a parti de, comme on dit d'habitude, mais c'était la réalité, parti du niveau 0,5, était arrivé à des sommets, il avait fait fortune en travaillant, fort beaucoup, c'était pas... Bon, et il a vu dans sa famille un drame avec un de ses enfants, ça l'a orienté vers... Il a été adoubé par Edmond Kayser, que les gens du monde humanitaire connaissent bien, qui avait fondé Terre des Hommes et Sentinelle, et qui lui a dit « tu dois faire ça ». Bon, alors il s'est lancé, il a fait ça. Mais il a fait ça après en chef d'entreprise, c'est-à-dire il voulait que ça marche, il y avait des budgets, c'était pas le contrôle tatillon, mais c'était la rigueur. Bon, il s'est aperçu au fil des années que certains tiraient moins fort que d'autres, qu'on se dispersait finalement et qu'on avait des impacts toujours ponctuels, mais certaines fois ils étaient ponctuels à peine. Donc il en a eu assez. Il a dit, on va regrouper tout ça, on n'aura plus de comités régionaux, on va avoir une association Enfants du Monde, ça date de il y a 3 ou 4 ans peut-être, parce que le temps passe, et elle sera à Marseille, et très vite, parce que sa santé déclinait, il a compris qu'il fallait passer la main, il l'a confiée au comité Côte d'Azur, qui est devenu l'association Enfants du Monde nationale. Donc, ce comité, parce qu'il était actif, et dans le président de l'association nationale maintenant, il s'appelle Alain Roch. La similitude de nom fait, oui, que c'est mon frère.
D'accord. Voilà. Okay.
Les actions que nous, au travers de cette association-là, puisque maintenant il n'y a plus qu'elle, se situent dans 3 pays. Au Burkina Faso, parce que là, nous y sommes depuis 25 ans, je pourrais vous détailler ce qu'on y fait, à Madagascar et au Cambodge. Bon, c'est pas exclu qu'il y en ait un ou deux autres, dès l'instant où il y aura des...
En Guinée aussi ?
On a tenté en Guinée, on n'y est pas arrivé. Mais il y a ça, il y a 15 ans au moins, oui.
Enfants du Monde, quand on a lu ce qu'avait écrit le fondateur,
oui.
Y a des enfants qui ont besoin dans tous les pays du monde.
Dans tous les pays, ah
et,
oui.
À commencer par la France. Oui. Mais vous n'avez pas eu envie de faire des actions en France ?
Bien sûr, on en a fait.
Vous en avez fait ?
Dans les Alpes-Maritimes. Ça, c'est un sujet qui... Une position qui nous est souvent... qui nous interroge souvent. Alors, bien entendu que les enfants français nous tiennent particulièrement à cœur. Les autres aussi.
Bien sûr.
Des enfants...
Bien sûr. C'est un enfant, c'est un enfant.
N'ont pas de nationalité.
Je suis complètement d'accord avec ça.
Et... C'est un être extraordinaire, l'enfant. Il vous apporte des joies, quelquefois des souffrances, mais toujours des joies. Donc on a fait, dans le département des Alpes-Maritimes, alors quand Enfants du Monde était à Marseille, installé à Marseille, c'était l'association nationale, mais c'était aussi un comité des Bouches-du-Rhône. Ils travaillaient essentiellement sur les Bouches-du-Rhône.
D'accord.
Ça, c'était... Bon, depuis, donc, il n'y a plus d'accès à Marseille, à l'État, à Nice, enfin, Saint-Laurent-du-Var. Et nos actions sont... Ça n'est pas laisser de côté les enfants des Français, enfin, de France, mais c'est continuer des actions qui ont été engagées déjà depuis assez longtemps pour certaines, et qui marchent bien, et que... Les besoins continuant d'être et s'aggravant d'année en année, ben il faut essayer de les assumer. Vous les assumez plus facilement quand vous avez ouvert des voies, même si elles sont étroites.
Pour me donner un ordre d'idée, vous avez des salariés dans cette association ?
Alors, à Enfants du Monde, l'association nationale, non. Tout le monde est bénévole.
D'accord. Okay.
Au Burkina Faso, oui. Au Burkina Faso, on a senti, il ne fallait pas être bien prophète, hein, que la situation pouvait se dégrader, ça il y a 20 ans qu'on y a pensé, et on a, petit à petit, on a créé une association Enfants du Monde Burkina, sous le contrôle d'Enfants du Monde
oui, un parent, voilà. Un enfant d'Enfants du Monde.
Et alors cette association, puisque elle perpétue les actions, elle est burkinabé, elle est composée de burkinabé avec un directeur, qui est un monsieur très bien, Mokhtar, et une douzaine d'employés permanents. Qui mènent les actions, qui continuent les actions auxquelles nous ne participons plus vraiment, sauf par le financement et par des visites, des contrôles.
J'allais vous le demander. Est-ce que justement certains membres bénévoles de l'association se rendent sur place pour regarder un petit peu ce qui est fait avec les fonds, quand même, puisque c'est toujours le nerf de la guerre, hein, l'argent. Et puis, je voulais savoir en première question si vous avez des gens ou vous-même qui vous déplacez pour vous rendre compte de ce qui se fait. Et puis, une deuxième question, j'aimerais savoir, on a dit OK d'utilité publique, mais donc vous recevez des fonds de l'État ?
Non.
Non ?
Non, non.
Du tout ?
Ah ben non, mais je sais pas, on ne lui demande pas d'ailleurs, parce qu'il a tellement de tâches à assumer que...
Et mais qui vous donne les fonds ?
Eh bien, j'ai parlé de la générosité publique. Heureusement, on l'entendra tout à l'heure, mais heureusement, il y a... Vous savez, parler de l'humanitaire comme ça, même en prenant un petit peu de temps, mais c'est difficile, parce que c'est complexe. Il y a... Derrière l'humanité, la volonté d'un groupe plus ou moins important, en général pas très important, d'un groupe de s'investir, d'apporter ce qui manque à des populations qui attirent leur attention ou qui, par hasard de circonstances. Bon. Y a d'autres gens qui ne peuvent pas faire ça ou n'ont pas la volonté. Sont pris par d'autres choses, mais qui ont la générosité bien implantée. Donc ils essaient de l'assumer, de la partager, bah, par la seule chose plus ou moins facile qu'ils peuvent faire, dans leur limite de leurs moyens, en donnant des fonds, ou aussi par les adhésions des adhérents, Tout ça constitue un trésor de guerre qui fait pas, qui tente pas les cambrioleurs. Hein. Il y a pas des sommes folles, mais il faut faire avec. Il faut faire avec. Nous avons, depuis que nous sommes association nationale maintenant, nous avons le soutien et quelquefois la participation de la Fondation Maurice Genoyer, qui, quand on le lui demande et si ça correspond à ses objectifs, finance tout ou partie de notre projet. En tout cas, en ce qui concerne le Burkina Faso, il y a eu deux ou trois financements qui étaient propres à Maurice Genoyer. Maurice Genoyer, je dois le dire, a fait vivre Enfant du Monde et a participé de sa cassette personnelle. Il faut le dire, quand même. Voilà. Donc, les fonds, ils sont pas inépuisables, ça c'est bien vrai, mais ils nous ont permis de fonctionner.
Est-ce que vous faites des actions pour recueillir de l'argent ?
Ah, Enfants du Monde, non.
Du tout.
Oui, oui, on faisait avec le comité, on va continuer de le faire, quand la situation va s'arranger, des lotos.
Oui.
Hein, on connaît ça dans
oui,
le
oui,
Sud.
Oui, bien sûr.
Qui était très couru parce que c'était toujours sympathique, mais ça rapportait un peu d'argent avec ça, vous n'allez pas bien loin, mais enfin un peu quand même.
Mais ça permet de faire connaître aussi l'association.
Bien sûr. Alors je précise quand même que tous les gens, je l'ai dit, étaient bénévoles, mais quand ils vont, ça répond à votre question, au Burkina, et il y a des voyages, il y en avait 4 fois par an, c'est sur leur cassette personnelle.
Oui, bien sûr. Bien sûr, nous avons déjà reçu d'autres associations avant vous,
normal,
et on
oui.
nous l'a dit de la même façon, bien évidemment. Sûr, au niveau associatif, c'est de l'associatif.
Bien sûr, parce qu'on a jusque-là parlé que des associations créées sur un coup de cœur ou selon des circonstances favorables par un groupe d'hommes qui se reconnaissaient très fortement et qui agissaient ensemble. Maintenant, je n'en dis pas du mal, je dis... à le préciser très clairement. Mais il y a des associations qui sont structurées comme sans aller parler de recettes, mais qui sont structurées comme des sociétés. Donc qui fonctionnent avec une direction, avec des recherches de fonds très professionnelles. Bon... là, je pense que beaucoup doivent avoir leur voyage payé. Mais ça, c'est normal. Hein. Simplement, je tiens à dire la différence quand même. Alors, excusez-moi, pour finir, par rapport à nos visites, oui, moi j'y allais, mais jusqu'à il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que j'y vais pas, mais les autres non plus. Parce que la situation est très, très dangereuse même. L'ambassadeur de France nous a interdit d'aller là où nous sommes, parce que les risques d'enlèvement sont très importants. Mais sinon, mon frère y allait 4 fois par an, et il restait avec sa femme, il se partageait le temps, un mois et demi à chaque fois. Ça fait, on est assez présents. Et moi, j'y allais 15 jours, comme d'autres. Voilà.
Alors, on a dit que c'était une association Enfants du Monde qui a été développée depuis plus de 40 ans. L'enfance meurtrie, certes. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'action ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Je demande que ça. Oui, je demande que ça parce que, au travers de l'émission que vous avez la gentillesse de nous consacrer, j'espère que les voix l'entendront et peut-être chercheront à nous rejoindre. C'est un objectif, il faut toujours faire du prosélytisme, surtout dans
bien
ce
sûr.
Genre d'action.
Et bon, et alors surtout dans l'associatif.
Oui, d'ailleurs, ça fonctionne comme ça.
Il y a assez d'associations pour que chacun trouve où aller pour donner un peu de son temps s'il ne peut pas donner d'argent.
Absolument, tout à fait, ils peuvent même faire les deux. Je plaisante.
Encore mieux.
Non, le type d'action, alors, je vais vous parler du Burkina Faso. Il nous est apparu, quand on avait rejoint ce vieux monsieur que nos épouses avaient rencontré, c'était pour
Comme quoi, il n'y a pas de hasard non plus.
Hein. Non, peut-être pas. Hein. Mon frère vous dirait qu'il n'y a pas de hasard. Je suis moins tranché parce que le monde est comme il est. Mais nous nous sommes aperçus sur place. On y allait pour soutenir une association que ce monsieur avait créée, qui s'appelle l'Association, la Z, c'est l'association pour les enfants déshérités du Burkina, enfin de la ville de Waïgouya. Une ville d'environ 60 000 habitants. Et là, on s'est aperçu que dans les villages autour, mais c'est tel qu'on peut se l'imaginer si on a un tout petit peu de connaissance de l'Afrique. Il n'y a rien. Un peu moins maintenant, mais il n'y avait rien dans un village, il n'y a rien. Et ben, sur la piste, pour y aller, ben, je ne vous dis pas dans quel état, et surtout quand il y a la pluie, parce qu'il y a une saison des pluies. Mais il n'y a pas d'électricité, maintenant il y a les portables, avant il n'y avait rien, rien. Et donc, notamment les enfants souffraient de manque. Et ces manques étaient à caractère des micronutriments, de ceux qui constituent les nutriments indispensables pour la construction d'un individu. Alors, oui, les enfants,
c'était du vital.
Les enfants se construisaient avec des choses qui étaient très nettement insuffisantes.
Des carences
qui en faisaient des handicapés. Alors, on a apporté un complément formidable qui est les extraits foliaires de luzerne qui étaient achetés en France, nous achetions, bon, enfin, mais il y a eu la crise pétrolière, on s'est rendu compte qu'on risquait d'être un jour coupé, et on a changé notre fusil d'épaule et on a redécouvert, avec, et peut-être même avant certains Africains, un arbre qui est originaire de l'Inde mais qui pousse beaucoup en Afrique de l'Ouest, qui est le moringa. Le moringa, c'est les feuilles, par exemple, séchées et rendues en poudre, apportent tous les nutriments indispensables à la construction d'un enfant. Tous. Et vous donnez 20 grammes par jour de cette poudre, et ben les gosses, au bout de 3 semaines, ils ont des joues magnifiques et ils grandissent normalement. Et ça fait, voilà, 18 ans qu'on fait ça, même maintenant avec la luzerne. Mais pour y arriver à faire ça, on a mis en place un système qui fait s'impliquer les populations elles-mêmes. C'est-à-dire que, bon, d'abord on se fait introduire et puis on voit le chef du village, d'un village puis d'un autre, et on leur propose de faire ce genre d'exploitation de culture. En général, il marche. Aujourd'hui, on a plus de 35 villages qui s'équipent. Donc, ils décident, ils mettent un terrain à disposition. Nous payons tout ce qui a trait à l'argent, parce qu'ils n'en ont pas du tout. Et eux, ils apportent leur force de travail. Les arbres poussent, la récolte se fait. On les sèche dans un four qu'on a, ou maintenant, ils le font sur place. Et donc ces récoltes sont pour leur village. On fait bien d'autres choses aussi. On fait ça, mais on fait. On s'est aperçu que, ça c'est une de nos amies, qu'il y a des fruits, des légumes magnifiques, magnifiques, hein, quand il peut y avoir de l'eau. Dans les bas-fonds, il y a toujours un peu d'eau, ou saison des pluies. Et les tomates, par exemple. Ça fait un peu drôle de parler comme ça, d'une action humanitaire sur la tomate. Et ben, les tomates, elles, en production formidable, les gens en consomment, mais vous savez comme moi que c'est très périssable. Ils les vendent sur le marché plus ou moins bien, parce que tout le monde en vend. Et puis après, on les jette. Et c'est des quantités formidables. Alors nous, on leur a proposé de nous apporter ces tomates qu'ils n'auraient pas vendues. On a monté un laboratoire, on a créé de la sauce, donc tout avec les équipements qu'il faut, stériliser, enfin tout. Et on le leur donne en gardant pour nous, enfin pour nous, 25% je crois, la production. Parce que ces 25%, on les vend à Ouagadougou, à la capitale, à des restaurants, enfin, en se débrouillant, pour faire un peu de sous, pour faire fonctionner tout ça. Et pour ça, on a créé une coopérative burkinabé, donc qui fait ça, et ils en sont très satisfaits, mais qui continuent. Hein.
Alors, comme je vais déjà être obligé de...
Oui, je suis bavard. Hein.
Non, mais et vous êtes là pour ça, et je vous en remercie, Francis. Je vois Tiffaine qui vous écoute avec beaucoup d'attention, parce que c'est... Quand même, c'est toujours très intéressant de parler d'une
Merci.
Association, et encore plus quand il s'agit d'associations pour aider les enfants. C'est forcément, oui. ça touche tout le monde. Je voudrais quand même signaler que vous avez un site internet, tout simplement oui. Les Enfants du Monde, qui est très bien fait. Hein. Je me suis promenée dessus hier soir et ce matin. Avec tous les renseignements nécessaires, évidemment. Bon, on y parle de toutes les actions qui sont faites, on parle des soutiens, on les évoque. Il y a également un onglet contact, parce que c'est bien peut-être de pouvoir vous contacter, parce qu'il y a peut-être aussi des bonnes volontés qui veulent rentrer dans l'association et en devenir bénévoles. Elles sont les bienvenues, et je suppose qu'elles sont les bienvenues, quel que soit leur lieu de résidence.
Certes, il n'est pas nécessaire d'habiter Nice, parce que ça limiterait.
Ça limiterait énormément.
Mais moi je suis à Perpignan.
Et vous y êtes quand même depuis toutes ces années. Voilà. Et bien évidemment, bon, on le dit, hein, il y a aussi un onglet si vous souhaitez participer de votre soutien financier pour aider.
Ah, il ne faut pas s'en priver.
Il ne faut pas s'en priver, parce que c'est pour une bonne cause. Et puis c'est... quelque chose qui est suivi, Francis nous l'a expliqué, puisque vous allez, soit vous, soit d'autres, votre frère également, sur place pour vraiment vérifier que tout se
oui.
passe bien et que tout avance dans le sens...
Nous avons grande confiance dans l'encadrement et dans le personnel, donc ça fonctionne très bien.
Ça fonctionne très bien.
Je voudrais pas qu'on s'arrête pas en croyant que nous ne sommes qu'au Burkina. Nous sommes aussi à Madagascar.
Oui, nous l'avons dit tout à l'heure.
Où nous avons engagé des actions importantes avec des partenaires locaux et où le moringa est cultivé aussi pour les enfants, où nous avons des actions au niveau... je trouve pas le mot auditif, enfin c'est les spécialistes de l'oreille et de l'ouïe. Qui font des interventions à Diego Suarez, à l'hôpital, dans le sud. Et de la même manière, ce type d'intervention, nous le faisons au Cambodge.
C'est bien.
Voilà. Pour l'instant...
Donc avec à chaque fois aussi, comme au Burkina,
non,
des équipes en place ?
Non, là, ce sont des équipes qui vont avec des accords.
Donc vous êtes pour l'instant moins implanté, on va dire, dans ces autres pays ?
Moins, parce que...
Peut-être c'est arrivé après aussi.
Le temps ne nous l'a pas permis, mais
voilà,
à Madagascar, on commence à être très bien implanté. Alors on y va au mois de janvier, puisque maintenant ça va s'ouvrir, paraît-il, puisqu'on ne pouvait plus. Voilà, on a été coincé comme tout le monde, et c'était bien lourd et difficile, la Covid, mais enfin...
Bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, je ne peux qu'inciter nos auditeurs à aller au moins sur le site internet Les Enfants du Monde pour voir tout ce dont vous nous avez parlé. Et encore une fois, c'est un site qui est très clair, très
oui,
ludique.
Je crois, oui.
Donc on n'a aucun problème pour trouver les informations qu'on aurait ou les questions, si jamais il y a des questions pour nos auditeurs sans réponse, parce que malheureusement, on n'a pas le temps de tout dire, ils trouveront forcément sur ce site. Je vous en prie, Francis.
Oui, simplement, sans rajouter, à cause de la Covid, ça a été reporté. Les 40 ans de l'association Enfants du Monde, de sa création, seront fêtés le 19 novembre dans les Alpes-Maritimes. Donc,
dans un mois.
Voilà, avec exactement une grande soirée dite de gala. Et tous ceux qui voudraient éventuellement y participer, s'ils sont dans les Alpes-Maritimes, c'est possible. S'ils sont ailleurs, c'est aussi possible. S'ils viennent, voilà.
Alors je vous propose, Francis, une pause musicale. Exceptionnellement, on n'en fera qu'une pour avoir plein de temps pour parler de la deuxième association qui vous tient également très à cœur. Et on l'a dit, celle-là, c'est pas du tout pareil, effectivement. En chanson, vous avez choisi de nous faire écouter Félix Leclerc, « Quand les hommes vivront d'amour ».
Oui.
Bon, j'ai toujours l'habitude de dire pourquoi ce choix, mais je crois que c'est...
Mais ceux qui connaissent la chanson et ceux qui l'entendront, ils comprendront. C'est intimement lié à ce qu'on vient de dire et à ce qu'on va dire.
Exactement.
C'est-à-dire à l'homme devant... Ah, à la petitesse de l'homme devant les immenses problèmes qu'il affronte, mais aussi à sa capacité de croire en l'avenir, de se projeter, de penser que le pas qu'il mettra devant l'autre va faire en même temps avancer le monde. Capacité d'espoir de pouvoir le faire. Et on s'aperçoit dans l'autre phase de la chanson que... C'est pas évident.
C'est plus compliqué.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons morts, mon frère.
Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, nous aurons eu la mauvaise partie.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous nous serons morts, mon frère.
Chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse ici-bas, c'est le prix.
Quand les hommes vivront d'amour, les soldats seront troubadours, et nous serons mon frère. Oh, les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère.
Effectivement, Francis, c'est un choix pertinent que de nous avoir fait écouter cette chanson. On va donc maintenant parler de la deuxième association qui s'appelle ADEPO, A-D-E-P-O. Quand on ouvre le site internet de cette association, ça nous dit en première page, ça pourrait être un proche ou vous. Nous l'avons dit en introduction. Francis, vous avez une fille, Charlène, qui est née polyhandicapée. Donc là, en l'occurrence, c'est plus qu'un proche, puisque c'est votre enfant, votre propre enfant. Donc, vous demandez pourquoi vous avez été sensibilisée par cette association. C'est une évidence. J'aimerais qu'on parle complètement maintenant de cette association, qui est très peu connue. Et j'aimerais qu'on la mette en avant.
Merci. D'abord, je n'ai pas rejoint cette association, c'est elle qui m'a rejoint. C'est-à-dire, nous l'avons créée à quelques-uns.
Vous l'avez créée.
En 2001, oui. ça s'est trouvé que c'est le parcours de notre vie qui a fait qu'à un certain moment, nous attendions que, peut-être un peu passivement, que les choses arrivent, qu'elles se passent. On ne savait pas trop. L'enfant était pas très grande.
En quelle année est née votre fille?
Elle est née en 1985.
D'accord.
Donc, déjà quelques années avant, on s'était interrogé. Et puis, on a constaté la carence de l'État. Et on s'est réunis, mobilisés à un certain nombre de parents, assez significatifs, pour créer une association dont l'objet était la revendication. Et il continue d'être revendicatif. Alors, ça ne veut pas dire d'aller jeter des pavés dans les vitrines, hein, soyons clairs. Mais ça veut dire que notre objet n'était pas de, même si c'est très noble, mais de soulager la misère d'un tel, d'écouter les doléances d'un tel autre parce que son enfant n'a pas de place en établissement et de lui trouver une place, c'est pas ça. Notre objet était et reste le même de sensibiliser l'opinion publique parce que c'est indispensable et d'essayer de se faire entendre des pouvoirs publics qui, eux, ont les moyens de changer les choses, en partie, sinon médicalement, pour que les droits élémentaires, c'est-à-dire ceux de tout le monde, des personnes polyhandicapées, soient reconnus, et que des droits spécifiques, c'est ce qui fait la particularité de notre action et de notre existence, soient reconnus. Dans ces deux démarches, je dois le dire tout de suite, si nous avons obtenu un peu dans la première, concernant les droits élémentaires, concernant les droits spécifiques, nous sommes allés d'échec en échec. Alors, pourquoi? Je crois quand même que je suis parti un peu vite, parce que je crois que pour l'entendement, il faudrait qu'on précise qu'est-ce que c'est que le polyhandicap. C'est indispensable de le savoir. Le polyhandicap est un handicap majeur, très. Il ne s'agit pas de faire des classements dans le handicap. Toute personne atteinte d'un handicap est défavorisée, c'est évident, par rapport à ceux pour qui tout va bien. Mais le polyhandicap, c'est, si on peut employer l'expression, c'est la totale.
Oui, c'est-à-dire à la fois la motricité, l'intellect, la sensibilité, tout est lié.
Surtout, il y a une définition, quoi qu'en disent ceux qui l'ont tripatouillé un peu, pour la changer comme ils voudraient qu'elle soit, la définition, c'est celle qui résulte. C'est technique, mais des annexes 24 terres au décret de 1989. Ces annexes disent, en ce qui concerne les enfants, l'enfant polyhandicapé est celui qui conjugue, c'est-à-dire en même temps, le handicap mental et le handicap moteur dans leur expression la plus sévère. Donc, c'est vraiment le maximum qu'on puisse avoir. Alors après, il y a des conséquences, parce qu'il y a aussi, viennent se greffer, pas toujours dans les mêmes proportions ou pas forcément, des handicaps associés, des malformations. Mais les deux handicaps, dans leur expression la plus grave, constituent le polyhandicap. C'est pour ça que quand vous pouvez voir des fois... on vient d'ouvrir une salle de sport et des polyhandicapés la fréquentent, c'est sûrement des personnes qui sont handicapées lourdement, mais qui ont la possibilité, la capacité de faire des choses. Un polyhandicapé n'a pas la capacité.
Oui, alors effectivement, pour dire la même chose autrement, peut-être, je ne sais pas. Mais ce qu'on peut lire, c'est que les personnes polyhandicapées ne peuvent rien faire par elles-mêmes.
Rien.
Rien, et ont besoin d'une assistance constante d'une tierce personne, ne serait-ce que pour l'habillement, la toilette, les repas, parce que parfois, effectivement, c'est avec une sonde. Donc les personnes je lis aussi parce que ça peut être complètement éclairant, les personnes polyhandicapées ont souvent des malformations associées, donc cardiaques, digestives, et des déformations des membres et du rachis dues à leur paralysie. Elles portent des attelles et sont installées dans des coquilles. Voilà. Donc c'est quelque chose effectivement de très lourd. De toute évidence, ces personnes ont besoin d'une assistance en permanence. Donc j'imagine que quand vous avez créé cette association, c'est effectivement pour pouvoir aider les parents qui avaient des enfants polyhandicapés, peut-être non, pour les mettre dans des structures. Expliquez-moi un petit peu justement l'action.
Quand on a créé, c'est justement parce qu'on s'est aperçu que nos enfants avaient besoin de structures. Certaines existaient ailleurs. Dans les Pyrénées-Orientales, un institut médico-éducatif, un IME, pour polyhandicapés n'existait pas. Donc on a mené une action qui a commencé petitement, mais qui s'est terminée par la création d'un établissement. Alors ça, c'est l'État qui est partie prenante. Hein. À l'époque, c'était la DAS qui supervisait tout ça. Mais au-delà...
La DAS, pour les plus jeunes, c'était la...
Direction départementale d'action sanitaire et sociale.
Des affaires sanitaires et sociales.
Voilà. Donc on s'est aperçu que il y avait pas d'établissement, donc on s'est mobilisé pour faire créer l'établissement, c'est-à-dire pour être un levier, exercer une pression. Et c'était notre côté, notre vocation revendicative. Mais elle était pour la satisfaction des besoins de nos enfants, puisque... je sais pas qu'on oubliait les autres, mais là, ça nous prenait, ça nous portait. De la même manière, quand ils ont été installés dans un humble établissement qui avait été créé, on a constaté que le même problème se poserait quand ils seraient adultes. Et parce qu'ils étaient dans l'établissement jusqu'à 18 ou 20 ans, je crois que c'était plutôt 20 ans,
Et après,
ils devaient aller en maison d'accueil spécialisée, c'est-à-dire la même chose, mais pour adultes. Mm-hmm. Bon, il se trouve que les maisons d'accueil spécialisées, pour les polyhandicapés, il n'y en avait pas. Donc on a revendiqué fortement. Ça s'est passé au travers, là, dans les deux cas, de deux manifestations à Perpignan, dans la rue... sans jeter des pavés, il y avait 2000 personnes qui nous accompagnaient. C'est très significatif de la prise de conscience par des gens d'horizons différents qu'il y avait là un problème qu'il fallait solutionner. Il fallait. Pourquoi il fallait le solutionner? Pourquoi est-ce qu'on dit c'est l'État qui doit prendre en main à certains moments certaines choses? Parce que les parents soient... mobilisé par l'enfant si extraordinaire qu'il vienne d'avoir, c'est bien normal, ce sont des parents. Mais les difficultés devant lesquelles il se trouve sont d'une telle importance qu'il est indispensable de les aider à les surmonter. Seuls, ils ne peuvent pas. Et nous allons... Nous allons le préciser un petit peu plus tard. Ils ne peuvent pas. Donc, il faut. Et ça passe par des structures d'accueil, de d'enseignement, il paraît, puisque tous les enfants sont soumis à l'école, c'est obligatoire. Et on a décidé que les enfants polyhandicapés aussi. Bon, moyennant quoi, il y a en ce moment un petit... soupçon de solution pour créer une sorte de scolarisation. Mais enfin, bon,
oui, ça,
c'est Enfin, je voudrais pas porter de jugement, ça choquerait peut-être des gens, et je ne veux surtout choquer personne.
Non, Francis, moi, ce que je voulais savoir, donc Charlène a 36 ans aujourd'hui, vous l'avez à domicile ?
Alors, Charlène, eh ben, elle a été une des premières bénéficiaires de la création de l'Institut pour adolescents et enfants. Mmh. Et lorsqu'elle est devenue adulte, eh ben, on a réussi à avoir cette maison d'accueil, la MAS, maison d'accueil spécialisée pour polyhandicapés, toujours dans les Pyrénées-Orientales, dans laquelle elle se trouve. Alors, dans cet établissement, on peut y être à titre d'externe.
Oui, comme dans un établissement, voilà. Tout à fait normal.
Sauf que...
Enfin, c'était peut-être pas le mot à utiliser, mais dans un établissement classique.
Oui, sauf que il y a le demi-pensionnaire, bon, qui rentre le matin, enfin, qui va le matin et rentre le soir. Il y a celui qui est résident, il est là, c'est sa maison, il habite là.
Oui, il y a interne, il y a externe et il y a demi-pensionnaire, j'imagine.
Et ben, les externe, c'est le demi-pension, puisqu'il reste à...
Il reste à la journée, de toute façon.
En revanche, il y a... C'est pour ça que notre projet a été accepté, parce qu'il était innovant. Mm-hmm. Il y a ce qu'on appelle un accueil séquentiel. C'est-à-dire que, dans le cadre de cet accueil de jour, les parents peuvent préparer leur enfant et eux-mêmes à ce qu'ils intègrent le statut de interne, puisque ça finira par ça.
Bien sûr.
Ce qui nous importe énormément dans l'existence de cet établissement, c'est qu'il soulage pendant que nous sommes là, mais nous ne serons pas là tout le temps. Il faudra bien qu'il soit quelque part. Et nous disons que c'est là, c'est sa place. Il y a encore beaucoup à dire, vous savez.
Non, vous avez encore 5 petites minutes, Francis,
oui,
je vous en prie.
Alors, ça va être peut-être un peu brouillon, mais je voudrais rajouter à la définition ce que nous rajoutons depuis le début, et nous n'en démordons pas, parce que c'est une évidence. Les personnes polyhandicapées, outre ce qu'on a dit, sont dans l'incapacité de communiquer avec le grand nombre. Ma fille communique avec moi, avec des expressions que je peux comprendre ou que je crois comprendre et qui sont à un certain moment et à un autre moment les mêmes expressions ne veulent peut-être pas dire la même chose.
J'ai une question. Vous avez une famille, vous avez une épouse, vous avez un frère, vous en avez parlé, une belle-sœur, etc. Donc il y a une famille. Mais donc si à vous, et je ne vous le souhaite pas, bien sûr, et à votre épouse, il arrivait malheur, votre fille aurait une famille. Mais comment ça se passe pour quelqu'un, par exemple, une femme qui est seule, qui a un enfant adulte, qui est polyhandicapé, cette femme décède ouais. prématurément, que devient cet adulte ?
Oui. Mais si vous voulez, la question... je vais vous répondre, mais c'est pas à moi qui vais la poser, c'est à Madame la secrétaire d'État qui... assez fatiguée des oreilles, elle n'entend pas. En tout cas, elle répond jamais. Alors, pas sur cette question-là. Nous sommes choqués, c'est pour ça que j'emploie ce ton-là, nous sommes choqués. Bien entendu, la question majeure que se posent tous les parents, et après nous, que deviendront-ils ? Voilà. Alors, si il y a une famille, mais la famille... Mon frère, c'est un jeune homme de 80 ans... un peu plus, même. Il fera comme moi. Et puis, son épouse est un tout petit peu plus jeune. La mienne est encore plus jeune. Mais bon, tout a une fin. Effectivement, à un moment ou à un autre, notre fille, mais comme les autres enfants, vont se trouver dans une situation de vacuité parentale. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Alors là, nous sommes... pas capable, mais presque. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais qu'on essaie d'éviter un peu de s'opposer parce que ça nous terrifie. Néanmoins, on sait bien qu'on y est contraint. Donc, on pose la question. Et la première des réponses que nous donnons, c'est qu'il leur faut un lieu de résidence,
d'accueil,
de vie.
Un lieu d'accueil.
Et ce lieu, ça doit être celui où ils seraient déjà depuis 15 ou 20 ans. Il faut qu'ils soient... Mais... parce que ma fille a la chance d'avoir une place. Le nombre de listes d'attente dans tous les départements français, c'est phénoménal. Et j'embraye là-dessus. Le Conseil de l'Europe, il y a, en 2010, réunissant les chefs de gouvernement ou les ministres de la Santé des différents pays, a décidé et a pris des directives pour chaque pays, selon lesquelles interviendrait une politique de désinstitutionnalisation. Ça veut dire plus de création d'établissements, et pour ceux qui existent, en prenant le temps qui conviendra, peut-être en l'activant un peu, on s'en rend compte, fermer tout doucement les établissements. Pourquoi ? Parce que, vous dit-on, avec un regard bleu, l'enfant ne sera jamais mieux que dans sa famille. Ce truisme est une évidence pour tout le monde, sauf que il y a des familles déjà qui sont monoparentales, et pour la mère, avoir son enfant pris là, même qu'à la journée, elle peut continuer à exister, des fois déjà elle en a besoin pour vivre, mais avoir une vie sociale, enfin, un minimum. Et puis il y a ceux qui n'ont plus de famille, donc il faut l'établissement. Alors maintenant, c'est l'ONU auprès de laquelle on a signé une convention. On ne faut pas croire qu'on nous l'impose. C'est notre pays qui l'a signé il y a des années. Et on est contraint par cette convention. L'ONU envoie, ça fait deux fois, des représentants vérifier qu'on fait. Alors, elle dit qu'en France, on ne va pas assez vite. Voilà.
Francis, une question. Combien il y a d'enfants et même d'adultes, d'ailleurs, combien il y a de personnes polyhandicapées en France ?
Je ne sais pas.
Du tout. Vous n'avez pas de...
Je ne me risquerai pas, parce que personne n'a à ce jour, et quand je dis personne, c'est surtout les gouvernements.
Oui, bien sûr, je vous entends.
Celui-là et ceux avant, qui ont une politique sur le polyhandicap, enfin, disent-ils, mais qui ne savent même pas combien de personnes ça... On ne sait pas. Chacun a des approches, moi je préfère pas répondre. Là, on a fait faire une étude pourtant, très sérieuse, c'était la seule qui existe en France. C'est notre association qui l'a fait faire.
D'accord. Deux petits mots, alors on est, comme je vous ai dit, il restait 2-3 minutes maintenant. Deux petits mots sur votre association, avant de rendre l'antenne.
Écoutez, notre association souffre. Elle souffre du temps qui passe, ce temps touchant les éléments actifs qui prennent de l'âge. J'en suis un exemple, mais je reste combatif. D'autres le sont moins. Et les jeunes générations de parents n'ont pas compris. Alors là, vraiment, je suis effaré. Ils n'ont pas compris que l'avenir de leur enfant est hypothéqué à 99,5%. C'est-à-dire, ils ne veulent pas eux-mêmes s'impliquer, parce qu'ils ne doivent pas voir l'intérêt, je ne sais pas pourquoi. Mais ça, ça me bloque, je ne peux pas comprendre ça. Donc j'ai en gros sur le cœur.
Et pourtant, on vient de le voir pendant une heure, il est énorme, votre cœur.
Merci. Mais bon, voilà, je trouve que... J'ai même plus un appel que je peux leur lancer, parce que j'ai essayé plusieurs fois. Les parents qui finissent par se poser, mais c'est pas qu'ils sont plus indifférents que nous, mais finissent par se poser la question, savoir et mon fils ou ma fille, qu'est-ce qu'il va avoir ? Parce qu'après 20 ans, ils peuvent rester dans l'établissement pour enfants au titre d'un... un amendement qui s'appelle l'amendement Creton, du nom de Michel Creton, l'acteur, mais qui l'avait fait imposer, et que c'était formidable. Sauf que ces adultes restant, ceux qui devenaient adultes, dans un établissement pour enfants, empêchaient les enfants de prendre
des places. Bien sûr, évidemment.
Donc c'était fait pour un temps, le temps de créer des places pour adultes, ce qu'on n'a évidemment pas fait comme c'est habituel dans notre pays, où on est...
Il reste tout à faire.
Il reste tout à faire, mais rien ne sera fait. pas parce que c'est mon appréciation, c'est parce que c'est la désinstitutionnalisation qui est en marche. Et on ne fera pas. La direction de l'ARS, Agence Régionale de Santé, qui a remplacé les DAS, mais, d'Occitanie, la direction, a dit à un directeur d'établissement que je connais, il n'y aura plus de place. On n'en créera plus.
Voilà, j'entends.
Voilà. Donc, eh ben, les gens, ils feront comme ils pourront. Mais ils ne veulent pas s'investir dans une revendication légitime et calme. Hein. On roule pour personne, sinon pour les enfants polyhandicapés. Hein. C'est, il faut le dire quand même. Je voudrais quand même dire une petite chose qui est choquante, si vous me laissez le temps. Très choquante. Et je vais choquer beaucoup de parents quand ils vont l'entendre. Dans la réforme de la justice d'il y a 3 ou 4 ans, déjà une réforme, il a été donné aux majeurs sous tutelle, dont les polyhandicapés sont une partie, le droit de vote. Alors, des majeurs sous tutelle pouvant exercer ce droit, ça existe et c'est très bien qu'ils aient le droit de vote. Parce que ça les met à égalité avec tous les autres.
Il y a peut-être d'autres choses à faire avant.
Mais l'égalité donnée aux enfants, aux adultes, parce qu'il faut être adulte, polyhandicapés, pour qu'ils soient justement les égaux des autres, c'est une aberration déjà, mais en plus, ils sont dans l'incapacité d'exercer ce droit.
Bien sûr.
Mais la plupart des familles sont satisfaites parce que, et on peut les comprendre, ça reconnaît leur enfant dans la société, mais enfin, les choses ne sont pas aussi simples, c'est pas parce qu'il y a une reconnaissance.
J'entends très bien, je comprends très bien ce que vous dites, absolument.
Voilà, c'est choquant, ce qui fait que celui qui vote, c'est le tuteur, puisque le gosse, il peut rien faire, hein. Et ben, le tuteur, il vote deux fois. Je prétends, et j'espère arriver, si certains veulent me rejoindre, je les accueillerai avec plaisir. Je prétends qu'il y a inconstitutionnalité, parce qu'une personne qui vote deux fois, légalement, ça n'existe pas dans notre droit.
Je recevais Francis Rock, venu nous parler de deux associations, donc à dépôt qu'on vient d'écouter, bon, pour les enfants polyhandicapés, et également Francis était venu nous parler. J'en perds mon latin là. Je suis perturbée. Était venu nous parler de l'association Enfants du Monde qui a été créée il y a donc 41 ans par Maurice Génoyer. Voilà, je voulais vous remercier, Francis, d'être venu d'un peu loin en plus pour nous parler de vos deux associations qu'on peut retrouver sur Internet. Merci beaucoup à Tiphaine qui était aujourd'hui avec moi. J'en perds mon latin là. Pour la technique, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Ainsi va la vie. Excusez-moi, j'étais un peu perturbée aujourd'hui. À très vite, au revoir à tous.
Ainsi vont les vagues et roule l'écume, ainsi vont les mots. Couché sous ma plume amère, le veilleur de nuit en maillon de lune inhale la vie. Son filtre, il la fume entière. Souffle semble arriver, Dieu n'est plus du tout démodé du tout, je sais. Ainsi va la vie, récit ou roman, ainsi va la mode, printemps, été ou hiver. Oui, c'est la vie, c'est un bon enfant, mi-chiche, qu'elle te tire comme une biche à bout portant pépère.